Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe et vous donne la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité. Dans 30 minutes, la dernière édition d'Afrique Matin, suivie comme tous les vendredis de votre libre antenne. Mais d'abord le journal international. Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Juan Gomez. Des retards, des tensions lors de la libération d'otages détenus à Gaza. La journée chaotique d'hier montre une nouvelle fois que la trêve entre Israël et le Hamas est bien fragile. Les derniers soldats français quittent le Tchad, la fin de 100 ans de présence militaire française dans le pays. Aux États-Unis, les suites de l'enquête après la collision mortelle entre un avion et un hélicoptère à Washington. Et puis en rugby, le 15 de France se lance dans le tournoi des 6 nations avec un revenant, Romain Tamac, de retour après un an et demi de blessure. Une trêve toujours très fragile entre Israël et le Hamas, mise en évidence par les tensions de la journée d'hier. 110 prisonniers palestiniens ont été libérés, mais avec du retard, Israël a un temps suspendu le processus pour protester contre les conditions de la libération des otages. 5 Thaïlandais, 3 Israéliens relâchés ou certains ont dû marcher dans Gaza entourés d'hommes armés, intimidés par une foule survoltée. Ces images ont choqué les Israéliens, notamment ceux qui suivaient en direct ces libérations sur la place des otages à Tel Aviv. Reportage de nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Nicolas Benita.
L'angoisse, puis le soulagement. Des centaines d'Israéliens suivent devant un écran géant les libérations d'otages à Gaza, au compte-gouttes et parfois dans le chaos. Sur cette place de Tel Aviv, Evan Greenstein est venue soutenir les familles d'otages, accompagnée de son chien qu'elle a couvert d'un drapeau israélien. Ouvertement nationaliste, elle se montre pessimiste pour la suite des événements.
On est seulement dans une période de cessez-le-feu, donc il faut vraiment que le Hamas baisse les armes, arrête cette idéologie et je pense que ils nous ont prouvé à maintes et maintes fois qu'ils n'avaient aucun désir de paix. Toutes les mises en scène qui sont faites sur des scènes devant tout le monde, ne pas donner les noms qu'on a demandés, ne pas respecter les horaires, etc. On ne peut pas leur faire confiance.
Tant que le Hamas ne sera pas éliminé, il n'y aura pas de paix possible, affirme-t-elle. Ce n'est pas l'avis de Hadass. Pour cette septuagénaire, il faut avancer malgré les obstacles.
J'espère un accord de paix. Je ne fais pas spécialement confiance à ce gouvernement pour y arriver. Je ne lui fais pas confiance du tout, mais j'espère la paix de tout mon être. On ne doit jamais penser autrement, parce que si vous ne visez pas quelque chose, c'est certain que vous ne l'atteindrez jamais. Ce ne sera peut-être pas le meilleur des accords, mais c'est la seule solution.
Parvenir à une paix durable, pour l'heure, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas n'en est qu'à sa première phase et reste fragile, prêt à rompre à tout moment. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Tel Aviv, RFI.
En Syrie, alors que la transition se met en place, les États-Unis disent avoir tué un chef djihadiste dans une frappe, chef de la branche syrienne d'Al-Qaïda qui avait annoncé sa dissolution quelques jours plus tôt. À Goma, dans l'est de la RDC, un calme précaire dans une ville encore sous le choc des affrontements entre l'armée congolaise et le M23, soutenu par le Rwanda. La situation sera au cœur du sommet de la SADC. Aujourd'hui, la communauté de développement de l'Afrique australe se réunit à Harare, au Zimbabwe. Oui. La présence militaire de la France continue de se réduire en Afrique de l'Ouest. Elle a rétrocédé hier sa dernière base à l'armée tchadienne. Une cérémonie militaire a rassemblé au camp Kosseï de N'Djamena les représentants des deux armées. Une autre, plus politique, est prévue ce matin avant le départ des derniers officiers français. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour.
Et c'est un moment historique, Franck, qui marque la fin d'un siècle de présence militaire française au Tchad.
Oui, lors de cette cérémonie entre militaires, le général français Pascal Yanni, à la tête du commandement militaire pour l'Afrique, a remis symboliquement la clé du camp Kosseï au général Daoud, chef d'état-major tchadien. Un geste accompagné de quelques mots pour rappeler tout d'abord que le camp Kosseï, ex-Fort Lamy, fut le point de départ des forces françaises libres en 1940. C'est aussi à partir de là que l'armée française a mené le plus d'opérations en Afrique. Le général Yanni a également évoqué l'engagement du Tchad dans la Drar des Iforas, qui avait permis le succès de l'opération Serval. C'est donc le clap de fin d'une présence militaire qui aura duré plus d'un siècle, un désengagement en un temps record. Il y avait encore 1000 soldats français il y a quelques mois. Un retrait en bon ordre, salué par les Tchadiens qui ont remercié les Français pour la qualité de la relation. Ce départ, a souligné le général Daoud, n'altère en rien la relation spéciale qui unit les deux armées. L'armée tchadienne la plus efficace au Sahel, selon les militaires français, et qui désormais devra faire sans la présence de l'armée française un moment véritablement historique. numérique se joue donc aujourd'hui.
Franck, si la France rétrocède ses bases permanentes au Tchad, d'autres pays arrivent.
Avec l'arrivée des Turcs déjà présents dans l'ancienne base française de Faya-Largeau et qui prochainement pourrait occuper celle d'Abéché, une présence qui n'est pas strictement militaire mais plutôt technico-militaire puisque ce sont des spécialistes des drones aériens qui sont arrivés pour permettre le déploiement des drones Bayraktar acquis par le Tchad. Mais la nature a horreur du vide et il n'a pas échappé à la Turquie qui a de grandes ambitions en Afrique que le Tchad occupe une place stratégique sur l'échiquier du continent africain.
Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense, a noté que le Sénégal, lui, négocie pour un départ des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Aux États-Unis, à Washington, les enquêteurs essaient de faire parler les boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé. Elles ont été retrouvées un peu plus de 24 heures après cette collision entre un avion et un hélicoptère, accident qui a fait 67 morts. Le président Donald Trump a déjà tiré des conclusions. Il a critiqué ses prédécesseurs, Joe Biden et Barack Obama. Selon lui, leur politique de promotion de la diversité a affaibli les exigences en matière de sécurité aérienne. Donald Trump qui tente d'imposer une proche à la tête du FBI et du renseignement américain, sauf que Tulsi Gabbard ne semble pas convaincre les sénateurs qu'il auditionnait hier, David Thompson.
Dans son tailleur blanc, Tulsi Gabbard affiche un aplomb imperturbable, mais la nominée de Donald Trump pour devenir directrice nationale du renseignement peine à convaincre les sénateurs, comme le démocrate Michael Bennett, qui lui reproche d'être une courroie de transmission de la propagande du Kremlin sur la guerre en Ukraine.
Vous avez tweeté que cette guerre et ses souffrances auraient pu être facilement évitées si l'administration Biden et l'OTAN avaient simplement reconnu les préoccupations légitimes de la Russie concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. La télévision d'État russe a ensuite diffusé vos commentaires. Vous saviez ça ?
Les questions difficiles fusent même de son propre camp. Interrogé sur son voyage en Syrie pour y rencontrer Bachar el-Assad en 2017, Gabbard se justifie en accusant faussement l'administration Obama d'avoir armé la branche syrienne d'Al-Qaïda. Mais ce qui passe encore moins auprès de la commission renseignement du Sénat, c'est son refus de qualifier de traître le lanceur d'alerte Edward Snowden, à l'origine de révélations dommageables sur les services de renseignements américains, actuellement réfugiés en Russie. Pour être confirmé, Tulsi Gabbard a besoin de la recommandation de cette commission renseignement du Sénat, qui semble loin d'être acquise à l'issue de son audition. David Thompson, Miami RFI.
En Birmanie, la junte prolonge l'état d'urgence pour 6 mois supplémentaires. Cette décision revient à repousser une nouvelle fois les élections. Demain marquera les 4 ans du coup d'État. Les manifestations anti-junte depuis ont fait plus de 6 000 morts et 3,5 millions de déplacés. RFI 9h08 à Paris. En rugby, le 15 de France en quête d'un nouveau trophée, celui du tournoi des 6 nations qui débute ce soir avec une rencontre France-Pays de Galles. Et les Bleus retrouvent Romain Tamac de retour après plus d'un an de blessure. Un premier match au Stade de France, Babacar Diarra, avant d'en enchaîner 3 à l'extérieur.
C'est une ancienne nouvelle charnière qui a beaucoup d'expérience, malgré son jeune âge.
Fabien Galthié a de bonnes raisons de sourire. Son 15 de France reprend du service avec une charnière plus alignée depuis août 2023. Une douloureuse rupture des ligaments croisés avait stoppé Romain Tamac dans son élan. Une Coupe du Monde, 2 tournois et 2 tournées plus tard, le capitaine Antoine Dupont retrouve son complice en bleu.
C'est comme si c'était hier, honnêtement. Je pense qu'il connaissait déjà très bien le système et la quasi-totalité des joueurs. C'est un joueur intelligent qui s'adapte vite, qui comprend le jeu, donc ça a été très rapide.
Un confort et un gain de temps dans la préparation du tournoi, d'autant que très tôt dans son mandat, Galthié a décidé de faire de son binôme Dupont en 9, Ntamak en 10, un vrai socle, une manière d'effacer son propre passé.
C'était très dur à mon époque, de se maintenir en 9 ou en 10 parce qu'on était toujours tenu responsable. Et là, on essaie de construire quelque chose de plus solide et de montrer que derrière le mot confiance, il y a une réalité. Et pas uniquement quelque chose qui était très éphémère et qui pouvait s'évaporer en un match.
Dupont et Ntamak forment déjà la charnière la plus alignée de l'histoire de l'équipe de France. À 28 et 25 ans, ils ont encore de beaux jours devant eux et les titres à conquérir.
France-Pays de Galles pour ce premier match du tournoi Destination. Le coup d'envoi, c'est à 20h15, heure de Paris. Pour l'heure, il est 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel. Vous retrouvez Juan Gomez dans Appel sur l'actualité.
Merci Marion Cazeneuve. L'info en continu, c'est sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure.